Hiver 1736, au nord de la Scandinavie, la Laponie. Les habitants du coin s'interrogent. Quelle est l'étrange religion qui a inspiré des Français à venir dans leur contrée, affronter le froid glacial, les forêts lugubres et les tempêtes de neige? Ces aventuriers bravent des obstacles inouïs pour explorer les environs, abattre des arbres, planter ici et là d'étranges totems, faits de mâts, d'arcs de cercle métalliques, de lunettes braquées tantôt vers les étoiles et tantôt vers le sol. Cette expédition improbable, c'est la mission Maupertuis. Et ce sera notre point d'entrée pour évoquer les incroyables progrès des équations différentielles.
Saison 1, mettre le monde en équation. Épisode 2, Leonard Euler, le Titan suisse et les aventuriers du pôle.
Ah, ce Maupertuis, têtu et explorateur comme un bon breton, militaire de formation converti aux sciences, initié aux équations différentielles par un Bernoulli. Dans cette terre désolée, il est venu habiter par une mission sacrée, rendre justice à Newton. Voilà 50 ans qu'une vilaine querelle sur la forme de la Terre oppose savants français et anglais. Les premiers croient que la Terre est légèrement allongée au pôle, et les seconds qu'elle y est au contraire légèrement aplatie. Les premiers invoquent les théories de Descartes et les cartes des Cassini, dynastie légendaire d'astronomes. Les seconds font confiance à Huygens et Newton. Maupertuis a été initié à cette querelle à Londres et s'est juré de la trancher. Et il a beau être français, c'est Newton que son cœur a choisi. Il a décidé de partir dans le Grand Nord pour vérifier sur le terrain si les méridiens s'allongent ou se raccourcissent, donnant raison à l'une ou l'autre théorie. C'est un grand séducteur charismatique, il a aplani toutes les difficultés, y compris dans les relations diplomatiques franco-suédoises. Et il a convaincu le roi de France de l'envoyer en mission, avec une poignée d'autres membres de l'académie, dont le jeune prodige Clairaut. Maupertuis maîtrise sa mission. L'opération de triangulation consiste à tracer sur le sol une succession de triangles jointifs, le long d'un méridien, sur quelques 200 km, et d'en mesurer les distances et les angles avec les meilleurs instruments de mesure et d'astronomie, forgés à Londres par le légendaire horloger George Graham. Mais Maupertuis maîtrise aussi ses effets. Il passionne le tout Paris par ses lettres de Suède. Il met en scène l'importance historique de son expédition, y ajoute de piquants récits, et même un émouvant poème sur sa romance avec une Laponne. Bon, en fait, de Laponne, c'est une Scandinave qu'il abandonnera sans état d'âme dans un couvent quand elle viendra le rejoindre à Paris. Peu rigoureux pour les sentiments humains, Maupertuis est en revanche un maître pour l'œuvre mathématique. Et son travail prouve finalement que la Terre est aplatie au pôle. C'est un triomphe pour la théorie de Newton. Ils sont de plus en plus nombreux, les Français qui prennent fait et cause pour Newton. Voltaire lui-même, le célèbre philosophe et écrivain, voue une admiration sans borne aux savants anglais. D'ailleurs, il s'emploiera à ridiculiser Leibniz, le grand rival de Newton, sous les traits d'un personnage de roman, l'insupportable savant Pangloss qui sévit dans Candide. C'est de la plus parfaite mauvaise foi, mais que c'est drôle. Une autre personne en France qui fait briller l'étoile de Newton, c'est l'éblouissante Émilie du Châtelet. Multipliant les aventures, à la fois amoureuses et intellectuelles, elle compte Maupertuis et Voltaire parmi ses amants de cœur et d'esprit. Elle se travestit en homme pour participer aux salons en vue, se forme auprès des meilleurs mathématiciens jusqu'à maîtriser les techniques les plus sophistiquées. C'est la première femme dont les écrits sont publiés par l'Académie des sciences. Et c'est à elle que revient l'honneur de traduire en français l'œuvre majeure de Newton.
Principia Mathematica Philosophiae Naturalis.
Ou Principe mathématique des sciences de la nature. Émilie du Châtelet ne peut savourer cet accomplissement, car elle est foudroyée par les complications d'un accouchement. Le cœur brisé, Voltaire retrouve sa divine Émilie sur son lit de mort et lui jure de faire publier le précieux manuscrit. Il écrit
« J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être femme et que tout Paris regrette et honore. »
Nous sommes en 1749. Une grande scientifique rend l'âme, mais la théorie des équations différentielles est plus vivante que jamais. Et celui qui y contribue le plus n'est ni un Français, ni un Anglais. C'est un Suisse qui exerce en Russie et en Allemagne. Leonhard Euler. Disciple des Bernoulli, mais surtout autodidacte, Euler a été formé à Bâle, puis recruté à Saint-Pétersbourg. Au pays des humains, Euler est un homme pieux et aimable. Il est à l'aise avec le grand monde et encore plus à l'aise dans la tranquille douceur de sa famille nombreuse. Mais au pays des idées, c'est un phénomène. Peut-être le plus puissant scientifique de l'histoire, s'attaquant à la théorie comme aux applications. Une puissance de calcul surhumaine et une incroyable intuition qui lui fait découvrir des centaines de formules remarquables. D'ailleurs, c'est à lui que l'on doit la formule que les mathématiciens considèrent comme la plus belle de toutes.
Exponentielle puissance, puissance I pi plus 1
égale 0.
Égale 0.
12 fois vainqueur du Grand Prix de l'Académie des sciences. Euler a publié plus de 800 articles, envoyé ou reçu 3000 lettres, couvert 40 000 pages de notes. À lui seul, il représente le tiers de la production scientifique mondiale de son temps. Bref, c'est un titan. En 1755, il se lance dans un défi inouï, mettre en équation les fluides. Quelle audace ! La marche des insaisissables planètes, que les Grecs appelaient objets errants, c'était déjà audacieux. Mais au moins, une planète a une position bien repérable dans le cosmos. Il suffit de 3 nombres pour dire où elle est. Alors que pour savoir l'état d'un fluide, il faut une infinité de quantités. Contemplez un écoulement dans un torrent ou dans votre évier, c'est tout un champ que vous devez noter. À chaque position, à chaque instant, il y a le courant qui va plus ou moins vite dans une direction ou dans une autre. Et il y a la pression qui pousse plus ou moins fort sur les objets dans l'eau. Vous suivez ? Imaginez que vous êtes une petite feuille, ballottée par le cours d'eau. À certains endroits, le courant vous entraînera vers la berge. À d'autres endroits, il partira vers la droite ou vers la gauche. Il faut noter pour chaque endroit quelle est la direction vers laquelle le courant vous entraîne. Insurmontable ? Pas pour notre titan suisse. En 1755 naît l'équation d'Euler. C'est la première équation aux dérivées partielles. Pourquoi dit-on dérivée partielle ? Parce que l'inconnu est une fonction de plusieurs variables, de temps et d'espace, et pour chacune de ces variables, on peut étudier la variation. Par exemple, la pression varie selon l'abscisse, l'ordonnée et la hauteur. On appellera dérivée partielle par rapport à l'abscisse la variation selon cette direction. Et de même, on a des dérivées partielles par rapport à l'ordonnée et par rapport à la hauteur. On regroupe d'ailleurs les trois dans un objet mathématique unique, le gradient. Est-ce que le courant va plus ou moins vite quand on avance d'une seconde dans le temps ? Est-ce que le courant va plus ou moins vite quand on se déplace d'un centimètre vers le nord ? Ou d'un centimètre vers l'ouest ? Comment varient les quantités qui sont transportées, advectées par le flot ? Les dérivées partielles capturent toutes ces informations. Et c'est sur ces quantités que porte l'équation. Équation d'Euler incompressible.
La dérivée du courant par rapport au temps, plus l'advection du courant par lui-même, est l'opposé du gradient de pression.
Si cette présentation vous semble obscure, laissez-vous bercer par la poésie des mots et par la poésie de la formule. Soit encore... Déron U sur Déron T, plus U scalaire gradient U, plus gradient P,
égale 0.
Avec cette équation, les variations du flot et les variations de la pression sont liées de manière organique, quantitative, prédictive. Quel progrès depuis la découverte de la pression par Torricelli et Pascal, il y a seulement un siècle. C'est la première équation aux dérivées partielles. Elle est assez simple à écrire, si, je vous assure. Mais ce n'est pas la plus simple à résoudre. Lisse et sans prise, comme une paroi montagneuse de l'Himalaya, bien plus difficile à aborder, par exemple, que les équations de la mécanique quantique elle-même. L'équation d'Euler est surtout la première d'une longue dynastie d'équations des fluides, pour décrire toutes sortes d'écoulements. Compressible, visqueux, liquide, gazeux, multiphasique, pâteux. Chaque type de fluide a son équation. Euler a élargi l'espace des idées. Bien des émules s'engouffreront dans ce nouveau continent intellectuel. Pierre-Simon de Laplace est l'un de ses disciples. Ce Normand, fils d'un marchand de cidre, monte à Paris à l'âge de 20 ans pour y faire reconnaître ses talents mathématiques. C'est Laplace qui établit l'équation du potentiel électrostatique, y gagnant l'honneur d'être transformé en nom commun. Le Laplacien désigne la somme des dérivées secondes. Sa carrière scientifique se doublera d'une carrière politique. À cette époque, les deux sphères étaient si proches dans notre pays.
Napoléon jugera sévèrement son bilan d'éphémère ministre de l'Intérieur.
Laplace ne traitait aucune question d'un bon point de vue. Il cherchait des subtilités de partout. Il avait seulement des idées problématiques. Et enfin, il portait l'esprit de l'infiniment petit jusque dans l'administration.
Quel sarcasme dans la formule de Napoléon. Mais dans ses ouvrages, Laplace voit plutôt les choses en très grand. Il porte les équations à un nouveau niveau. Son monumental traité de mécanique céleste reprend de fond en comble la théorie de la gravitation et l'améliore par de nouvelles techniques. Il démontre que toutes les données astronomiques jamais engrangées, 6000 ans d'observations, toutes s'expliquent avec une seule règle, la loi de la gravitation universelle de Newton. Entre deux corps quelconques s'exerce une force d'attraction proportionnelle au produit de leur masse divisé par le carré de leur distance. Quel triomphe ! En étudiant le système solaire, Laplace comprend même pourquoi les perturbations de long cours qui troublaient Newton ne se font pas sentir sur un millénaire, mais sur une durée bien plus grande, de l'ordre du million d'années. Nous sommes au début du 19e siècle et on sait qualitativement démontrer que le système solaire restera stable sur l'incroyable durée d'un million d'années. Prodige ! Napoléon interpelle son ancien ministre.
Comment ? Vous donnez les lois de toute la création et dans tout votre livre, vous ne parlez pas une seule fois de l'existence de Dieu.
Sire, répond Laplace, je n'avais pas besoin de cette hypothèse.
C'est la naissance du déterminisme laplacien. Conviction philosophique selon laquelle l'évolution du monde est entièrement déterminée par ses conditions initiales et ses équations. Les équations différentielles auraient-elles pris la place de Dieu ? La revanche posthume de Galilée semble complète. En tout cas, les scientifiques de tous bords ne vont pas se gêner pour établir de nouvelles équations. C'est une longue chaîne humaine dont on ne peut citer tous les grands noms. Lagrange, D'Alembert, Monge, Poisson, Gauss, Germain, Fourier, Sturm, Liouville, Navier, Poisson, Stokes, Boussinesq, Saint-Venant, Ampère, Maxwell, Germain, Boltzmann, Fourier, Thomson alias Kelvin, Sturm, Tesla, Stokes, Hamilton, Hilbert, Kovalevskaya, Poincaré, Adamar, Cartan, Ampère, Bachelier, Planck. L'audace ne leur manque pas pour expliquer à grands coups d'équations différentielles tous les phénomènes imaginables. Les vibrations, la chaleur, l'électromagnétisme, la lumière, la matière, les déformations géométriques, la finance même. Nous voici au début du XXe siècle. Le monde physique, auparavant constitué d'objets matériels et d'observations, est maintenant peuplé de ces êtres d'abstraction et de papier, les équations différentielles. Elles sont là pour expliquer tout. Enfin, expliquer, c'est beaucoup dire. On s'aperçoit aussi au fur et à mesure que leur résolution est incroyablement difficile, voire impossible. Sauf dans certains cas particuliers. Un écoulement spécifique, une situation de petite perturbation, une configuration particulière. Si éclairante soit-elle, ces situations ne reflètent qu'une infime partie de la réalité. Alors, que va-t-on en faire de toutes ces équations qui se refusent à la manipulation ? Puissantes, admirable mais insoluble. Comment rendre sens de tout cet amoncellement de joyaux brillants et brûlants ?